À chaque fois qu'il est exfiltré de la salle d'audience pour aller aux toilettes situées au sous-sol, il est accompagné par une dizaine de policiers. Et à chaque fois, il en profite pour faire un petit signe de la main aux femmes assises dans l'espace réservé au public de l'immense tribunal de Sillivry. Un coucou discret et furtif, à la manière de ceux que s'échangent les adolescents secrètement amoureux. Le reste du temps, habillé d'un costume crème aux mesures trop larges pour lui, il écoute sans émotion ni inquiétude apparente les questions de l'avocat général.
This man, a dangerous revolutionary or a bizarre playboy.
Una personalità però molto contrario all'evoluzionismo.
Mr. Adnan Oktar's article.
Adnan Oktar grubuna.
Adnan Oktar operasyonu, Adnan Hoca operasyonu.
Adnan Oktar.
Ce n'est ni le seul ni le plus lourd des mystères qui entourent la trajectoire de ce prédicateur musulman qui avait fini entouré de quelques centaines de disciples. Après plusieurs semaines de procès et 18 mois d'incarcération, Adnan Oktar, 63 ans, paraît plus jeune et enjoué que jamais.
Il faisait danser les filles, pleuvoir l'argent et proposer une vision du monde fondée sur le créationnisme. Aujourd'hui, Adnan Oktar est poursuivi pour tentative d'homicide, appartenance à une organisation armée, chantage, harcèlement, corruption et agression sexuelle. Un procès fleuve qui pose une question. Comment cet homme a-t-il pu, pendant 30 ans, attirer autant de fidèles issus de la bonne société turque? Une question à laquelle Joachim Barbier, journaliste à Society, tente de répondre. Au long, la piste audio des grands récits de Society.
Derrière une façade pseudo-scientifique, la fondation d'Adnan Oktar, créée en 1979, avait progressivement coché toutes les cases d'une secte dédiée à la satisfaction des plaisirs et à l'enrichissement personnel de son fondateur. Symbole de cette dérive égocentrique, la chaîne de télévision Adnan TV, qui entre deux programmes consacrés aux thèses créationnistes, montrait le gourou dansant en tête-à-tête avec des jeunes filles blondes et botoxées dans un décor kitsch oriental. Des jeunes filles qu'il appelait kittens, ses chatons. Mais aujourd'hui, Adnan Oktar est poursuivi pour tentative d'homicide, appartenance à une organisation armée, chantage, harcèlement, corruption et agression sexuelle. Derrière la cour du tribunal trônent les preuves accumulées depuis 30 ans, regroupées dans une montagne de classeurs bleus de 4000 pages. Depuis la fin des années 80, Adnan Oktar a été régulièrement l'objet d'enquêtes. La justice turque, qui doit rendre son verdict prochainement, est-elle confrontée à un problème de taille ? Il existe pratiquement autant de versions de qui est vraiment Adnan Oktar que de témoins ou de plaignants. À la croisée de la politique, de la religion et des médias, Adnan Oktar est un personnage kaléidoscopique et insaisissable, tour à tour décrit comme gourou manipulateur, agent des services secrets de l'étranger ou même conseiller spirituel de Steven Seagal. Mais cette dernière affaire est d'une toute autre nature. Les dénonciations sont, pour la première fois, venues de l'intérieur. Les 226 prévenus et les 125 plaignants de ce maxi-procès, qui s'est ouvert le 17 septembre 2019, opposent les toujours fidèles d'Adnan Oktar à ceux qui ont décidé de fuir la secte. Aujourd'hui, ils n'espèrent qu'une chose, la chute fatale de leur ancien gourou. C'est dans un café à la mode de l'un des innombrables centres commerciaux qui tapissent les beaux quartiers d'Istanbul qu'ils ont décidé de nous recevoir. Ils se sont rencontrés grâce à Instagram, il y a 2 ans. Ils se sont plus en photo, et dès qu'ils ont commencé à échanger, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux d'anciens membres de la Fondation de la Recherche Scientifique, l'organisation de Adnan Oktar. Lui était son garde du corps, et elle, l'une de ses managers, comme ils disent. Pendant toutes ces années au sein de la Fondation, l'organisation paranoïaque et compartimentée d'Oktar, ne leur avait donné aucune occasion de se croiser. Il a fallu qu'ils s'en sortent pour se trouver. Beryl a aujourd'hui presque la quarantaine. Elle raconte l'engrenage. Tout a débuté au sortir de la fac par la rencontre d'un groupe de rabatteurs. Elle traînait avec une bande de gars, ils discutaient de tout et de rien. L'un d'eux était censé devenir son petit copain, mais cela n'est jamais arrivé. Dans cette secte, les gens visaient des filles susceptibles de devenir leur femme ou leur copine. Mais pour Beryl, cela s'est passé différemment. Il lui a expliqué que Oktar était un ami de son père et il lui a proposé de déjeuner avec lui. La première fois, elle n'est pas impressionnée par le gourou. Adnan Oktar est un type quelconque, sans charisme. Et puis, au fur et à mesure qu'elle met un pied dans le cercle, elle se rend compte qu'elle est prise en charge. Un mélange de preuves d'amitié, d'idéal et de bienveillance. Chose rare, au bout de 6 mois, elle est invitée à venir vivre dans le quartier général de la Fondation, quelques bâtiments posés sur la rive asiatique du Bosphore, qu'elle qualifie de petit village. Elle est fière de cette soudaine promotion qui implique une vie entièrement dédiée à la Fondation et une existence coupée du monde. Dès qu'elle est rentrée, elle n'avait plus le droit de sortir seule. Au début, on lui explique que c'est pour des raisons de sécurité et pour ne pas être affectée par la propagande extérieure. Très vite, elle comprend que c'est pour d'autres raisons. Mais comme pour toutes les sectes, une fois que tu as compris que tu es piégée, il est déjà trop tard. Elle travaille du matin au soir. Ses responsabilités sont larges. Organiser des conférences d'Adnan Oktar partout où sa vision du monde reçoit de l'intérêt. Elle découvre le fonctionnement interne de la Fondation. Elle voyait Adnan 15 ou 20 minutes par jour et passait le reste de son temps au bureau devant son ordinateur. Pour elle, tout est parti en couille en 2011, quand il a voulu monter sa chaîne de télévision. Il pensait toucher beaucoup plus de gens en ayant son propre canal. Ils ont donc monté des studios et les choses sont devenues de plus en plus folles parce que lui devenait de plus en plus autoritaire. Il se plaignait, il jurait, et cela devenait impossible de vivre et de travailler avec lui. Alors, une première fois, en 2015, Beryl tente sans succès de quitter la secte. Elle y passe tout de même 3 ans supplémentaires, même si dans sa tête, elle ne se sent plus concernée du tout. En 2018, elle est la première à faire défection et va tout raconter à la police. 25 autres membres suivent, dont l'ex numéro 2, Firat Devieloglu, qui avait rejoint le culte dès 1986. Devieloglu a assisté de l'intérieur aux multiples revirements doctrinaires d'Adnan Oktar, notamment sur la question des rapports hommes-femmes. Au début des années 90, Oktar avait ainsi décrété que les membres de la Fondation ne pouvaient pas se marier entre eux et que les hommes n'avaient pas le droit de regarder les femmes dans les yeux. Puis, il a changé d'avis. Un jour, subitement, Adnan Oktar a expliqué que le seul interdit concernait en réalité le pubis et le vagin. En gros, c'était une façon de dire que les pratiques orales et anales n'étaient pas un problème. La question des mœurs de la secte et des accusations d'agression sexuelle sont l'une des clés du procès. Beryl confesse qu'elle n'a jamais été victime d'abus, mais peut-être que c'était une question d'âge. Elle avait 30 ans passés quand il a lancé sa chaîne de télévision, mais autour de lui, on voyait beaucoup de filles de 19 ou 20 ans qui ressemblaient à des compagnes. En outre, pour éviter que les choses se sachent, Adnan Oktar s'appliquait à empêcher toute communication entre les femmes de l'organisation. C'était une architecture subtile. Beryl raconte qu'elle n'avait pas le droit de parler aux femmes des autres cellules et que s'il y avait des abus, il était impossible pour elle de le savoir. Au-delà de la question des violences sexuelles, l'ancienne adepte décrit le statut des femmes au sein de la Fondation. Ce n'était pas un harem, mais elles étaient quand même ses esclaves puisqu'elles travaillaient constamment et pendant que lui ne faisait rien. Pour elle, les abus psychologiques dans le travail ont été plus dommageables que si cette histoire s'était réduite à une affaire de mœurs. En 1998, l'officier de police Adil Cherdar Sachan avait mené une enquête qui avait abouti, à l'issue de 18 mois de filature et d'écoute téléphonique, à l'arrestation de Adnan Oktar. Mais le gourou était sorti indemne de cette mise en cause. Désormais avocat, Adil assure qu'à l'époque, Adnan était entouré de 18 femmes, mais il suppose qu'il n'avait pas de relations sexuelles avec elle et qu'il était plus le genre à focaliser sur une animatrice de télévision et à demander à ce que ses hommes la ramènent parce qu'il avait envie de la rencontrer. Sur ce chapitre, beaucoup d'anciens de la secte racontent les délires et obsessions sordides du gourou. notamment celui de son kyste, situé sur son bas-ventre et qu'il présentait comme le symbole de sa force sexuelle. Il obligeait les filles qu'il fréquentait à embrasser ce kyste dès leur première rencontre. Malgré la taille de ce kyste, il ne voulait pas se faire opérer. Il pensait que c'était un truc sacré. Beryl, elle, assure que cet aspect fait du mal au procès et qu'avec cette histoire de kyste, on passe à côté de l'essentiel. Ça va faire rire les gens, donner la preuve de son côté loufoque, ça va probablement l'énerver, mais pour elle, ce n'est pas le cœur du sujet. Mais alors, où est le cœur du sujet ? Peut-être faut-il le chercher du côté des raisons qui ont poussé les membres de riches familles d'Istanbul à léguer pendant 30 ans une bonne partie de leur fortune. Les fidèles d'Adnan Oktar se recrutaient presque exclusivement dans la bonne société stambouliote, alors que lui n'était qu'un ancien étudiant issu d'une famille pauvre d'Ankara, arrivé sans réseau ni recommandation dans la grande ville d'Istanbul. De l'avis d'Adnan, il fallait être physiquement attirant, riche ou intelligent pour entrer dans la fondation. Les gens beaux servaient d'appât pour recruter de nouveaux adeptes. Les gens riches concédaient leurs biens ou leur héritage à la fondation, ce qui permettait à l'argent de couler à flot dans les caisses. Et les gens intelligents se chargeaient de faire du lobbying auprès des politiques. Au gré des changements de majorité politique en Turquie, Adnan Oktar avait en effet réussi à continuer de prospérer en réussissant l'exploit d'être tour à tour proche des laïcs ou des néo-religieux, quitte à assumer de multiples revirements doctrinaires. À l'université circulaient parmi les étudiants de l'époque des discours qui expliquaient que les juifs et les francs-maçons allaient prendre le pouvoir. Un des anciens membres de la secte se souvient d'ailleurs qu'au moment de son entrée dans la fondation, c'était pour aider les musulmans en souffrance, comme en Palestine ou au Cachemire. Assez vite, Adnan Oktar change pourtant de discours et propose un islam plus moderne. Quand Beryl rejoint l'équipe au début des années 2000, elle fait partie d'un groupe de jeunes qui pensaient faire du bien à la société en essayant d'introduire une vision moderne de l'islam pour les croyants et les autres. Ils sont alors persuadés de faire partie de cette mission, d'être cool.
Turquie, les militaires ont pris le pouvoir.
Messieurs, bonsoir. Une épingle de plus sur la carte des pays tenus par des militaires, la Turquie. L'armée a en effet repris le pouvoir. C'est la troisième fois en effet depuis la création de la République, il y a 50 ans, que les militaires sont aux commandes de l'État.
Dans une Turquie encore marquée par le coup d'État de 1980, ce repositionnement de la fondation sert les aspirations de certains partis, comme l'ANAP, parti de la mère patrie, qui pousse pour un assouplissement de la laïcité turque. Le premier ministre de l'époque, Turgut Özal, avait même complimenté l'équipe d'Adnan en disant « Vous avez un Coran dans la main, un ordinateur dans l'autre ». Pourtant, malgré sa proximité avec les élites politiques, économiques et médiatiques, la fondation commence à susciter méfiance au sommet de l'État dès la fin des années 90. Dans le viseur de la police, Adnan Oktar répond en mettant en place un système d'espionnage pour collecter des informations personnelles sur ceux qui pourraient menacer sa survie. Il crée une sorte de haut conseil autour de lui qui dirigeait différents groupes de travail. Certains apprennent l'arabe, d'autres se spécialisent en droit. Un groupe était chargé de faire des recherches sur les personnes gênantes. Et des caméras cachées sont installées pour faire chanter les familles qui avaient porté plainte contre la fondation. À l'époque, ils avaient les numéros des ministres et des journalistes qui écrivaient négativement sur la fondation. À chaque fois, la fondation riposte en lançant une contre-propagande grâce aux journaux gratuits diffusés à plus d'un million d'exemplaires. Et cela fonctionne. Malgré les enquêtes et les accusations, notamment pour négation de la Shoah, soit des vices de forme, soit la rétractation de témoins permettent au gourou de passer entre les gouttes d'une condamnation à de la prison ferme.
À l'RRT, tous les chefs d'établissement qui ont reçu par milliers des exemplaires d'un livre d'inspiration musulmane qui réfute la théorie de l'évolution. Il s'agit d'un luxueux ouvrage intitulé « L'Atlas de la création » qui a été expédié il y a une dizaine de jours de Turquie et d'Allemagne dans les écoles, les lycées et les universités françaises.
En 2006, Adnan Oktar avait gagné une nouvelle notoriété en publiant l'Atlas de la création sous le pseudonyme de Harun Aya, un livre qui expliquait le monde selon un gloubi-boulga scientifico-spirituel et qui avait été diffusé dans son pays, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, où il avait été envoyé aux médias et aux universités. Selon le docteur en théologie Alberto Fabio Ambrosio, son propos était finalement proche du concept de « dessin intelligent », une théorie néo-créationniste qui s'appuie sur des bases pseudo-scientifiques.
L'auteur, turc, cite le Coran et réfute le darwinisme et l'évolution des espèces. Il affirme que tout être est création de Dieu et ne peut donc avoir changé au cours des millénaires.
Oktar incarnait une certaine modernité religieuse qui ne remettait pas totalement en cause la science en rajoutant la mythologie d'un retour aux sources d'une Turquie traditionnelle. Cela aurait été le vrai secret de sa réussite, y compris à l'international. En 2014, l'acteur américain Steven Seagal, de passage à Istanbul, l'avait rencontré pour profiter de la sagesse de ses paroles. Sûrement plus proche de la rumeur, certains ex-membres assurent qu'il a aussi rencontré Madonna quand cette dernière était en pleine période de recherche spirituelle. On allait voir Adnan Oktar comme une autorité spirituelle mondiale. Pourtant, c'est un ignorant, estime Adil Cherdar Saçan. Quand il l'avait interpellé, l'officier de police lui avait posé la question. « Est-ce que tu sais lire l'arabe du Coran ?» Mais il ne savait pas. Il lui demande alors « Comment a-t-il pu devenir imam ?» Et il avait répondu « Je ne suis pas un imam. » Pour Beryl, Adnan avait une explication pour tout, basée sur l'islam, mais avec sa propre interprétation. Pour elle, le Coran est un livre énorme. Si tu retires du contexte 25 phrases du livre, n'importe qui peut raconter n'importe quelle histoire. Adnan Oktar a souvent utilisé les discriminations à l'encontre des musulmans pour souder sa secte et recouvrir d'un vernis humanitaire ses véritables ambitions. En œuvrant pour la fondation et les revenus qu'elle devait générer, chacun des membres avait l'impression d'embrasser une noble cause. Son ex-garde du corps se rappelle d'un épisode. Adnan avait fondé tout un tas de sociétés écrans pour faire fructifier ses affaires, à Dubaï, à Hong Kong. Mais il ne payait jamais les fournisseurs chinois. Et quand il lui a demandé pourquoi, il a répondu « Les Chinois oppriment les Ouïghours musulmans. On remboursera l'argent quand l'islam aura vaincu. » Mais pour Beryl, la morale de l'histoire n'est ni religieuse ni politique. C'est juste l'histoire d'un pauvre gars qui cherchait un moyen d'exister.